Puis, quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, il devait être purifié, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Évangile de Saint Luc, chapitre 2, verset 22.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
En cette période de carême, nous avons décidé de vous proposer une série d'émissions sur l'histoire de la ville de Jérusalem. Ainsi, pendant 4 chroniques, nous déroulerons l'histoire de la ville et nous pourrons terminer par une histoire du Saint-Sépulcre qui, évidemment, est un lieu particulièrement important pour la religion chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer sur la période antique de la ville. C'est déjà tout un programme. D'abord, première question, quand est-ce que l'on peut dater les débuts d'une installation humaine sur le site de Jérusalem ? Les préhistoriens et les archéologues s'accordent pour dire que parmi les 16 sites néolithiques qui ont été retrouvés à Jérusalem, les plus anciens datent d'environ 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc, voici pour les premières traces de présence humaine. Reste ensuite l'histoire elle-même de la ville pendant l'Antiquité. Il y a d'abord la question de la période dite royale, c'est-à-dire entre le 11e et 6e siècle avant Jésus-Christ. En fait, il semble, dans la tradition juive d'ailleurs, que depuis David, la ville ait été faite capitale du royaume d'Israël. La question se pose à propos du temple. Parce que si la ville est capitale, il semble bien qu'elle ait eu effectivement un temple où on rendait un culte à Dieu. Or, sur le plan purement historique, le temple pose une série de problèmes. Lesquels ? Quand on lit le livre des rois dans la Bible, on a une description grandiose du temple. Monument extraordinaire. Monument à l'échelle finalement d'un véritable royaume et d'une grande puissance. Or, le problème, c'est que la description que nous avons du temple ne correspond absolument pas à ce que l'archéologie nous dit. À vrai dire, l'archéologie a du mal à évoquer le premier temple. Ce qui fait qu'il y a de véritables polémiques autour de l'existence de ce premier temple. Vous avez des archéologues qui estiment qu'il n'y a jamais eu de premier temple. Ce qui d'ailleurs a aussi un but éventuellement politique, c'est-à-dire pour dénier à Israël toute présence extrêmement ancienne sur l'emplacement de Jérusalem. Vous en avez encore qui peuvent garder l'idée d'un temple magnifique et qui estiment que finalement, depuis Salomon, il y aurait eu un monument absolument extraordinaire. La vérité est souvent peut-être entre les deux. Il est fort probable qu'il y ait eu effectivement un lieu de culte et que l'on peut finalement dénommer un peu chapelle palatiale, c'est-à-dire un petit temple, un petit lieu de culte où l'on aurait rendu un culte à Yahvé. C'est-à-dire que cette troisième voie évite de dire que nous avions affaire à un temple extraordinaire, ce qui est difficilement, on peut difficilement l'affirmer, puisque l'archéologie, vous l'avez compris, ne nous vient pas en secours. Mais de même, il est difficile de penser qu'il n'y avait strictement rien avant la construction de ce qu'on appelle le second temple. Donc vous voyez que déjà, l'histoire antique de Jérusalem nous pose une question qui n'est pas mineure. Ensuite, il faut bien voir aussi que la ville dans l'Antiquité connaît les aléas politiques traversés par le Moyen-Orient. En 587 avant Jésus-Christ, Jérusalem est prise par les Babyloniens du roi Nabucodonosor. La ville a été pillée et ses élites ont été déportées vers Babylone, ce dont évidemment certains psaumes font écho sur les rives de Babylone. Ne pensons pas qu'il y ait eu une déportation générale de la population, tout simplement parce que l'administration babylonienne avait besoin de faire fructifier les terres conquises. Mais par contre, c'est sans doute bien une élite qui a été amenée à Babylone. Cette élite et ses descendants ont été libérés par la prise de Babylone par Cyrus, roi des rois, roi perse. Celui-ci a autorisé les Hébreux vivant à Babylone de rentrer à Jérusalem, et c'est à ce moment-là que l'on construit un second temple. Ce qui fait d'ailleurs que dans la tradition juive, Cyrus a une image positive. Parce que certes, il n'est pas juif, mais il est celui qui a finalement favorisé la libération des exilés et le retour sur la terre promise. Par la suite, eh bien, Jérusalem a connu les divers conquérants qui se sont emparés d'elle. En 333, Alexandre le Grand s'empare de la ville sans résistance, comme nous le raconte Flavius Josèphe dans les Antiquités judaïques. Là aussi, il faut faire attention entre la tradition de cette prise et de ce passage d'Alexandre le Grand et la réalité historique. On a tendance, dans une tradition juive, à nous montrer un Alexandre le Grand très attentif au dieu des Hébreux et étant très plein de révérence envers les prêtres du temple. Il est fort probable que l'affaire soit finalement plus simple. Alexandre le Grand ne s'est sans doute pas arrêté à Jérusalem parce que son grand objectif était plutôt d'aller vers l'Égypte, qui était sur le plan géopolitique beaucoup plus important que la ville de Jérusalem. Ensuite, après la mort d'Alexandre le Grand, eh bien, les Judéens et les habitants de Jérusalem ont été dominés par la dynastie égyptienne des Ptolémées, descendante d'un des généraux d'Alexandre le Grand. Et cette domination égyptienne, par le biais de cette dynastie très grecque des Ptolémées, dure jusqu'en 198 avant Jésus-Christ. L'administration des Ptolémées donne d'ailleurs la possibilité d'une certaine autonomie dans la gestion de la ville de Jérusalem par le biais du grand prêtre et de la Gérousia, c'est-à-dire d'un conseil des anciens. Ensuite, à partir de 198, c'est la période Séleucide qui s'ouvre. Les Séleucides descendent du général Séleucos, un des compagnons d'Alexandre, et les Séleucides dominent le royaume de Syrie. Et c'est eux qui, donc, au cours du second siècle, administrent la ville. Mais il faut bien voir que le second siècle est surtout marqué par une révolte importante qui va compter dans la mémoire juive, c'est la révolte des Maccabées. Donc deux livres de la Bible, Ancien Testament, nous racontent les aléas de cette révolte. En 147, la domination séleucide est définitivement éliminée de la Judée et de Jérusalem, et donc peut commencer une nouvelle période royale qu'on a appelée la période asmonéenne et qui va prendre fin en 63 avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'en 63 avant Jésus-Christ, suite à une guerre civile entre Hyrcan et Aristobule, Rome intervient directement à Jérusalem et la ville est prise par Pompée, Pompée le Grand, qui mène d'ailleurs une campagne extrêmement importante dans toute l'Orient. Pompée va d'ailleurs faire un geste qui va être jugé blasphème par les Juifs, puisqu'il va pénétrer dans le Saint des Saints. Enfin, Rome va également nommer des rois clients pour gérer la région et la ville en son nom. Le plus connu de ces rois clients est Hérode le Grand, qui est nommé en 37 avant Jésus-Christ et qui meurt en 4 avant Jésus-Christ. Il va donc servir Cléopâtre et Marc-Antoine, ainsi que l'empereur Auguste.
חרבם ליבם, חפו דברים לוחן בקרבם, חדדו ערים נביון בריבם, כי
Le temple va être extrêmement embelli par le roi Hérode. Hérode, à qui on reproche justement d'être pas assez juif, d'être trop proche des Romains, d'être en partie païen, d'être en partie grec, eh bien va offrir au monde juif un formidable monument qui est le temple. Ce temple qu'a connu le Christ, puisque à l'époque du Christ, le temple de Jérusalem était celui d'Hérode le Grand. De même qu'il va construire à côté du temple la forteresse Antonia qui permettait aux Romains finalement de pouvoir contrôler la situation si nécessaire. Parce que les Romains ont mis fin au royaume client de Judée en 6 après Jésus-Christ. Et à partir de là, eh bien, c'est l'administration romaine qui va administrer la ville et la province de Judée. Or là, la ville va connaître des situations tragiques. Après la révolte juive de 66, le temple va être détruit à l'été 70. D'autre part, en 132, la deuxième grande révolte juive va provoquer un deuxième saccage de la ville. Et en 135, l'empereur Hadrien va transformer Jérusalem en colonie romaine qui va porter le nom d'Aelia Capitolina. Et à l'emplacement des ruines de ce qui reste du temple, c'est-à-dire pas grand-chose, eh bien, les Romains ont édifié un temple de Jupiter. Donc, véritablement, là, la ville connaît une tragédie. Elle n'est plus le centre du monde juif, si ce n'est dans le souvenir, dans le fait que les Romains autorisent une journée par an la possibilité de venir prier à l'emplacement du temple. Mais c'est tout. À partir du IVe siècle, la ville va ouvrir un autre chapitre de son histoire, parce que finalement, à partir du IVe siècle, elle va véritablement se christianiser. C'est ce que je vous proposerai de voir la semaine prochaine.